France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 17 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité, la troisième vague en vue. Un conseil de défense sanitaire ce matin pour tenter de freiner l'épidémie de Covid, notamment en Île-de-France. Alors confinement ou pas, après avoir consulté, c'est Emmanuel Macron qui va trancher dans les heures qui viennent. Les autres titres, Agnès.
Les Français majoritairement contre un passeport vaccinal. C'est ce qui ressort d'une étude du Conseil économique, social et environnementale. Une première mondiale pour les chauffeurs Uber, reconnus comme des travailleurs salariés en Grande-Bretagne. La lutte contre le streaming illégal, près de 2 millions de pirates réguliers en France et un énorme manque à gagner pour les diffuseurs officiels. Enfin, du Périgord noir à la planète rouge, quand les chercheurs de la NASA découvrent un petit bout de France sur Mars.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, c'est une histoire d'amour bouleversante, romanesque, tragique, celle d'une professeure de français qui tombe amoureuse de son élève, l'histoire de Gabriel Russier, racontée dans un livre qu'on prenne qui voudra par l'excellente Pascale Robert-Diard. Elle sera avec nous à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. On se retrouvera pour le grand entretien de la matinale à 8h20 avec aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Le ton a changé depuis lundi. Emmanuel Macron, le maître du temps, c'est le virus. Valérie Pécresse, l'Île-de-France est en sursis. Jean Castex hier soir, le moment est venu. Le Premier ministre a effectivement évoqué clairement sur BFM TV de nouvelles contraintes pour les habitants de la région parisienne. Le chef de l'État a reçu hier le conseil scientifique, puis s'est entretenu avec des réanimateurs de plusieurs régions. Et la décision sera prise ce matin lors d'un conseil de défense sanitaire qui débute à 9h. Simon Le Baron.
Tous les conseillers de l'exécutif le répètent. Personne ne sait ce que va décider Emmanuel Macron, mis à part le président lui-même. Pourtant, en écoutant le Premier ministre, on jurerait que la décision est déjà prise.
Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. En tout cas, les données en sont réunies.
Jean Castex le dit sans le dire, mais cela semble suffisamment clair. Alors, confinement total ou seulement le week-end? Là encore, le chef du gouvernement donne un élément de réponse. Il ne veut pas créer de sentiment d'injustice.
Il n'y a absolument aucune raison que nous n'adoptions pas les mêmes mesures vis-à-vis d'une partie du territoire par rapport à une autre. Nos concitoyens sont attachés à l'équité.
S'il est difficile d'expliquer aux habitants de Nice, Dunkerque ou du Pas-de-Calais qu'on ne confine pas l'Île-de-France, il sera donc tout aussi difficile d'expliquer aux franciliens qu'on les confine 7 jours sur 7 quand les autres ne le sont que les week-ends. Encore une fois, c'est Emmanuel Macron qui va trancher, ce qui n'empêche pas Jean Castex de se projeter déjà vers la prochaine étape.
Il faut bien voir et que nous ayons une pleine conscience des conséquences. Il faudra bien accompagner tout ça.
Mais avant de parler d'accompagnement, encore faut-il faire une annonce officielle, peut-être demain soir, peut-être avant, si l'exécutif juge que les esprits des Français, comme on dit, sont suffisamment préparés.
Préparés, le sommes-nous vraiment? Ironie du calendrier, il y a tout juste un an débuté le premier confinement, annoncé au départ pour 15 jours et finalement prolongé jusqu'au 11 mai. Il y a un an, sur France Inter, on parlait déjà de masques, de garde d'enfants, de rues vides, mais aussi de sexe. Mathilde Dehimi nous replonge dans les archives du 17 mars 2020.
En cette matinée, les parents sont encore optimistes.
On va le vivre ensemble et ça va bien se passer.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué?
Occuper mes deux filles.
Et il n'est pas toujours simple d'attraper les témoignages au
Bonjour.
Micro.
Est-ce que vous acceptez de me parler, madame?
Bah, je cours surtout. Est-ce que je peux courir à côté de vous?
Quand vient l'heure fatidique.
Depuis midi, confinement presque total dans toute la France.
Les derniers retardataires se pressent.
Je quitte mon appartement qui fait à peu près 12 mètres carrés, quoi, pas plus. Je compte m'installer avec un ami. Pour...
La place de la République à Paris, si vivante, se vide.
Oui, bah, je suis seule sur mon banc avec des pigeons, quasiment.
Mais à Nantes, on traîne un peu plus.
Il y a encore des gens qui vont faire des courses, il y a des motos qui circulent, même si, encore une fois, ça s'est assez nettement tari depuis une dizaine de minutes.
Certains mots entrent dans notre vocabulaire. Attestation.
Équipés de gants, mais pas de masques, les policiers vérifient chaque document imprimé ou manuscrit.
Télétravail.
Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
En direct de chez vous, comme beaucoup de nos journalistes, Radio France aussi télétravail.
Alors... Et course au masque pour les soignants.
Plus rien en boutique depuis plusieurs jours, alors que les demandes des professionnels de santé sont de plus en plus pressantes.
Le soir, Paris est silencieuse.
Il y a aussi ce soir de la solidarité, des gens qui se parlent plus qu'à l'accoutumée et des voisins qui s'inquiètent pour les sans-abri en bas de chez eux, Sébastien.
Surgissent alors de nouvelles questions.
Le sexe est-il
incompatibles ou compatibles avec les gestes barrières. On répond à la fin de ce journal.
Séquence signée Mathilde Dehémy. Donc, un an après, les chiffres de cette troisième vague évoquée hier par le Premier ministre sont alarmants. Près de 30 000 nouvelles contaminations en 24 heures et une pression toujours plus forte sur les services de réanimation avec 435 nouvelles admissions. 4 239 patients sont aujourd'hui en réa, dont plus d'un quart en Île-de-France. Très touchées également les régions PACA et Hauts-de-France. Côté vaccination, l'injection du vaccin AstraZeneca a été suspendue dans l'attente demain des conclusions de l'Agence européenne du médicament. Mais la campagne s'est poursuivie hier. Près de 5,5 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin et 2 310 000 personnes ont reçu deux doses. Alors être vacciné sera-t-il un jour synonyme de laissez-passer qui permettrait de fréquenter restaurants, cinémas ou musées? Le Conseil économique, social et environnemental a lancé une consultation citoyenne sur ce sujet sensible. Près de 7 personnes sur 10 parmi ceux qui ont répondu refusent ce passeport considéré comme une atteinte aux libertés. Cécilia Arbonin.
Premier constat, ce sujet de société passionne les Français avec un record de participation. 110 000 citoyens se sont connectés pour donner leur avis sur la plateforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Stéphanie Goujon, rapporteure de la consultation.
Sur les 110 000 contributions, il y en a plus de 67% qui se sont déclarés très défavorables, 5,6% défavorables au passeport vaccinal. Le top 3 des arguments contre, c'est majoritairement tout ce qui va être sur l'atteinte à la liberté. Le côté discriminant, ça créerait le passeport vaccinal une discrimination entre les citoyens. Certains ont même évoqué le fait que ce ne soit pas constitutionnel. Et aussi des questions quand même sur l'efficacité d'un tel dispositif tant que l'efficacité et la sûreté du vaccin n'ont pas été prouvées.
Les participants, qu'ils soient pour ou contre, estiment que ce laisser-passer pourrait être acceptable uniquement pour les voyages à l'étranger, mais pas pour un usage au quotidien et dans une durée limitée. Tous réclament un dispositif court, de quelques mois, le temps d'atteindre le seuil d'immunité collective.
Et c'est justement aujourd'hui que la Commission européenne présente son projet de certificat vert numérique qui rendrait plus facile la circulation au sein de l'espace Schengen. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8 heures. Nicolas Sarkozy de retour au tribunal 2 semaines après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Cette fois, c'est l'affaire Big Malion sur le financement de sa campagne de 2012. 14 prévenus au total, mais l'audience pourrait être reportée. L'avocat de l'un des principaux prévenus, Jérôme Lavrieux, souffre du Covid et est hospitalisé.
Il est 7h08, Agnès. Enfin, un statut pour les chauffeur Uber.
Et c'est le Royaume-Uni qui ouvre une première brèche en octroyant le statut de travailleur salarié aux quelques 70 000 chauffeurs recensés dans le pays. Alors on est encore bien loin du statut de salarié au sens français du terme, mais ils vont bénéficier d'un salaire minimum et de congés payés. Correspondance à Londres de Richard Place.
Ce n'est pas un cadeau, mais bien une victoire, celle d'une vingtaine de chauffeurs qui ont mené un combat en justice pendant 6 ans. Il y a un mois, la Cour suprême leur donnait raison et après avoir tenté tous les recours, Uber capitule. Dès aujourd'hui, ces chauffeurs britanniques ne sont donc plus des indépendants, mais bien des travailleurs salariés. Ils toucheront au moins le salaire minimum ici, 10,18 € de l'heure. Ils gardent la flexibilité de leurs horaires. S'ils prennent des vacances, Uber leur versera 12% de leurs gains habituels et ils sont désormais inscrits à un régime de retraite pour lequel l'entreprise américaine va cotiser. Dans le droit du travail britannique, travailleurs salariés et salariés, ce n'est pas exactement la même chose. Les chauffeurs Uber obtiennent donc un statut intermédiaire en quelque sorte. Ils n'auront, par exemple, pas de contrat en bonne et due forme. Satisfaction tout de même pour GMB, le principal syndicat engagé dans cette lutte, qui affirme « c'est la fin du faux travail indépendant ». Londres, Richard Place, France Inter.
Le nombre de soldats mobilisés pour l'opération Sentinelle en France va baisser, passant de 7 à 3 000 militaires affectés à la surveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le niveau d'alerte du plan Vigipirate a lui aussi baissé au début du mois, passant d'urgence à risque attentat. Des effectifs remobilisables à tout moment en cas de nouvelles menaces. La lutte contre le streaming illégal, ce sera l'un des volets de la proposition de loi sur le sport examinée à partir d'aujourd'hui par les députés. Le texte prévoit de faciliter faciliter l'accès des équipements sportifs au club, entend déjouer les paris truqués et puis lutter donc contre l'accès en direct via des réseaux pirates aux grandes compétitions sportives. Fabrice Abgral.
Il y a trois types d'utilisateurs de streaming. Ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement, ceux qui peuvent se le permettre mais qui refusent par principe, et puis les occasionnels qui utilisent le streaming en fonction de l'affiche du jour. En France, il serait au total 1 800 000 pirates réguliers. L'Institut Médiamétrie estime qu'il y avait en 2020 en moyenne 626 000 téléspectateurs illégaux lors de chaque journée de Ligue 1. Mais depuis, ce chiffre a dû augmenter après l'échec de Mediapro, dont l'abonnement pour beaucoup était trop coûteux. Les pertes financières sont énormes pour les diffuseurs détenteurs de droits. Elles s'élèveraient à près de 80 millions d'euros par an. Les ayants droit et les diffuseurs souhaiteraient exister dans un cadre légal pour supprimer le streaming. La loi sport doit mettre en place toute une procédure judiciaire prévoyant le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites retransmettant illégalement une compétition sportive. La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné 5 streamers illégaux à verser 7 millions d'euros de dommages et intérêts à Canal+, beIN Sport et RMC Sport pour avoir administré des sites pirates entre 2014 et 2018.
Fabrice Abgral, décidément invincible, la team New Zealand vient de remporter la 36e Coupe de l'América, ne laissant aucune chance au défi italien Lunarossa. La Nouvelle-Zélande décroche ainsi un quatrième sacre dans l'une des plus anciennes compétitions sportives du monde. Des régates au large d'Auckland cette année pour décrocher la mythique aiguillère d'argent fabriquée en 1848.
Et enfin, Agnès, il y a donc un peu de Dordogne sur la planète Mars.
Alors oui, cette affaire peut paraître un peu folle, mais c'est le résultat d'études très sérieuses menées par la NASA. Grâce au robot Curiosity, envoyé sur Mars il y a 9 ans et toujours en activité, des géologues de l'Agence spatiale américaine ont en fait identifié des roches martiennes similaires à des minéraux présents en Dordogne et leur ont même donné des noms du Périgord. C'est Flavien Groyer de France Bleu Périgord qui nous raconte cette histoire.
Ribérac, Limera, Siorac en Périgord, Sorge ou Daglan, voilà comment des scientifiques américains de la NASA ont nommé certaines roches découvertes sur Mars par le robot Curiosity. Bernard Trégon habite Brantôme et est ingénieur au CNRS de Bordeaux.
Les géologues, en fait, pour classifier en fait les sites différents sur lesquels ils vont s'arrêter avec le robot Curiosity, ont décidé en fait de nommer certains de ces endroits en fonction des roches, mais aussi des lieux propres à la Dordogne dans lesquels on pouvait trouver ces roches.
En clair, cela veut dire que des roches périgourdines sont quasiment identiques à des roches martiennes.
La Dordogne est une région qui est extrêmement riche en minéraux, et ces minéraux ont été classifiés par des géologues, plus particulièrement autour du 19e siècle. En faisant des analyses un petit peu poussées, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en faisant des analyses spectroscopiques, on a réussi à déterminer qu'il s'agissait effectivement typiquement des mêmes signatures de roches.
Et pour Bernard Trégon, cette exploration est incroyable.
En fait, on s'aperçoit que les processus géologiques de formation de certaines roches sur Terre sont les mêmes que les processus géologiques de formation des roches sur Mars il y a très longtemps. C'est aussi dans les preuves selon lesquelles, en fait, l'eau a coulé sur Mars.
Alors le Périgord n'est pas la seule star sur Mars. Des roches américaines, australiennes ou encore allemandes ont aussi été découvertes sur le sol de la planète rouge.
Voilà, du Périgord noir à la planète rouge, il n'y a presque qu'un pas.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur Gibert Jeune, haut lieu du quartier latin qui va disparaître, place Saint-Michel.